Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Tu dévores donc le bouquin en une nuit. Il se passe quoi le lendemain? Par quoi on commence quand on se dit qu'on a envie de tangibiliser un peu ce rêve et cette idée? Quelle est la première action ensuite pour se dire je vais tendre vers ça ou peut-être que moi aussi je peux vivre ce type de défi? Comment s'oriente ta réflexion qui mène à l'action très vite?
La première chose à faire quand on a une réflexion comme ça, parce que c'est très humain et l'être humain a besoin de ça, on a besoin d'échanger, et bien c'est de le partager. C'est de confronter ses idées, son opinion à une personne. Pour moi, la personne la plus importante, c'était ma maman, et elle était en bas. Donc je suis descendu et j'étais la voir tout de suite et je lui ai dit « J'ai une idée, je vais traverser un pays en courant. » Donc t'imagines, 7h du matin, avec le café tranquillement, elle te regarde, elle fait « Ouais. »
Si c'est Luxembourg, ça va.
Ouais, c'est ça. Bois déjà le café, on verra plus tard. Mais je fais OK. Et en fait, ça, je me suis dit, je vais garder cette petite idée en tête, puis on verra par la suite. Je suis retourné à Thoiry, là où je travaillais en tant que maître d'hôtel. Et là, tu te poses toutes les questions du monde. Tu fais OK, c'est cool, tu as posé ça sur le papier, je vais traverser un pays en courant. On fait quoi? On fait comment? Et en fait, maintenant, ça me paraît tellement simple de le poser sur un papier. Le qui, quand, pourquoi, comment, enfin, c'est des choses basiques maintenant. Mais quand j'avais 26 ans, ces questions-là, mais c'était catastrophique. Je ne savais pas monter un projet, mais j'étais maître d'hôtel, je portais des assiettes, j'allais vendre des accords mets et vins à mes clients, je leur expliquais pourquoi prendre ce fromage avec ce vin, et c'est tout. Et du coup, tu te dis, c'est quand même particulier, tu vois, de passer de l'un à l'autre. Et donc, il a fallu prendre, se poser, réfléchir, comment on monte un dossier de présentation, comment est-ce qu'on fait ça. Et quand je repense à tout ce que j'ai fait pour monter le projet de l'Australie, des fois, je me demande encore comment est-ce que j'ai réussi à le faire. Comment est-ce que j'ai réussi à partir en Australie alors que c'était monté n'importe comment. J'étais complètement novice dans le domaine, donc j'ai fait un peu à ma sauce, tu vois, même démarcher des partenaires. Je ne savais pas le faire, mais eux ne le savaient pas le recevoir non plus. C'était pas des choses qui étaient communes d'aller démarcher des entreprises pour leur dire on a besoin d'argent. La plupart des personnes que j'allais solliciter te regardaient avec des yeux, genre mais vous voulez quoi en fait? En fait, j'ai besoin d'un peu d'argent, mais on fait pas ça nous. Ouais. En fait, ils étaient complètement interloqués de se dire le mec il va traverser l'Australie en courant tout seul, sans assistance, et vous voulez que nous on aide ça? Mais si vous voulez vous payer un enterrement digne de ce nom, vous nous le dites, on fera autrement. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre tout ça. Moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que la plupart des entreprises que je sollicitais me répondaient avec un non. J'ai dit, mais pourtant, je vais le faire. Et moi, j'étais tellement persuadé de ce que j'avais envie de faire que je ne comprenais pas leur réaction.
Et convaincu que tu pouvais y arriver?
Exactement, ouais. Moi, je ne savais pas si j'allais y arriver, mais en tout cas, j'allais tout mettre en œuvre pour le faire. Et les entreprises que je sollicitais, pour elles, c'était juste du suicide. Et en y réfléchissant, oui, ça pouvait... poser derrière un bureau, t'es en train de travailler tranquillement, et t'en as un qui arrive, un minot de 26 ans, avec un petit dossier bourré de fautes, avec une mauvaise présentation à la PowerPoint, tu le regardes, il te dit, va traverser l'Australie en courant, tu fais, OK. Allez voir le secrétariat
sécurité.
À côté. Voilà, vite, vite, sortez-moi cette personne. Là, j'ai l'impression qu'il va faire quelque chose de bizarre.
La gestion de la peur, comment ça se passe? Est-ce que c'est un moteur pour toi ou est-ce qu'il faut l'évacuer parce que ça peut être un frein et ça peut t'empêcher de partir et de faire les choses? Comment est-ce que tu gères ça?
Mais il faut la doser en tout cas. Elle est très importante, elle est nécessaire, elle doit être là. Si elle n'est pas là, en fait, t'es mort. Donc la peur est omniprésente et elle m'a toujours aidé dans mes choix. En Australie, par exemple, lorsque j'ai dû aller chasser un brown snake, donc c'est l'un des serpents les plus dangereux sur Terre, quand tu dois aller chasser un serpent, moi je partais toujours au principe où tous les serpents sont mortels. Comme ça, au moins, tu sais, c'est pas « Ah oui, mais il avait les écailles comme ça, on m'a dit que... » Non, on s'en fout, ça. Tu vois, quand ils mordent, on s'en fout. Ils peuvent être mortels. Mais là, entre le voir sur un papier, tu sais, « Ok, c'est comme ça, j'ai compris le truc », et le voir en vrai et qu'il bouge, et tu te dis « Faut que je l'attrape pour le manger », c'est pas la même chose. Et en fait, la peur t'envahit. Et en fait, c'est une peur, c'est une bonne peur parce qu'elle est là pour te rappeler où est-ce que tu es, ce que tu fais, que s'il y a un risque à prendre, bah, tu es au courant de ce que tu fais. Et surtout, tu es au courant que si tu te fais mordre, les secours vont mettre un certain temps à arriver et que, au mieux, tu vas perdre la jambe ou le bras parce qu'ils vont te le sectionner, parce que ça sera complètement pourri, si tu veux, ou alors tu y laisses la vie. Donc, la peur est là et elle est présente et on en a besoin pour justement se poser les bonnes questions. Sur le Mékong, elle m'a beaucoup aidé sur des prises de décision, sur des gros passages de rivière où c'était très encaissé avec des rouleaux énormissimes et des vagues qui faisaient 2-3 mètres de haut, où tu t'arrêtes avant et tu dis « Bon, si je vais à gauche et que je fais ça, potentiellement il peut se passer ça, ça. Si je vais au milieu, il peut se passer ça ou ça. Ici, pareil. » Et en fait, tu prends conscience de tout ça. Et ça te donne, entre guillemets, une fourchette d'options de ce que tu peux être capable de faire ou non.
Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut être aventurier à son échelle?
Bien sûr. À chacun son Everest. Et il n'y a pas besoin de faire la plus belle montagne du monde et la plus haute montagne du monde sans oxygène, en short, pieds nus. on s'en fout. On s'en fout royalement. Ce que je dirais aux gens, principalement, hein, c'est surtout à l'heure actuelle où on travaille avec les réseaux sociaux, où on veut faire du buzz.
La surenchère, toujours.
Je fais, ouais, arrêtez. Ça sert à rien. Faites pas uniquement de la forme pour dire, regardez ce que je fais, on s'en branle. Faites du fond. Faites des choses qui ont du sens. Ça sert à rien de vouloir faire le truc le plus ouf et de dire, j'ai battu machin, j'ai traversé le truc le plus vite possible. C'est rare. Enfin, en tout cas,
faites-le pour vous, en tout cas, déjà dans un premier temps.
Voilà, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Faites des choses avec du fond qui donnent du sens. Ça, c'est important.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.